c'est quand il est redescendu dans sa maison. C'est de retour chez lui, redescendu dans sa maison, que le publicain est devenu un homme juste. Cette métamorphose, dont il faut bien dire qu'elle tenait du miracle, s'il fallait un exemple, à la mesure de la conversion de saint Paul. Vous savez, saint Paul, de persécuteur qu'il était, il est devenu l'apôtre des nations. Lui, pour ce publicain, de corrompu qu'il était. C'est quand même le modèle du corrompu. À la solde de l'occupant romain. Très certainement usurier à des taux exorbitants. Cette métamorphose, cette conversion s'est produite pas au temple, pas pendant qu'il priait, mais de retour chez lui, quand il est redescendu dans sa maison. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est dans sa maison qu'il s'en est aperçu après coup, quand il s'est étonné lui-même de son comportement, qui ne se reconnaissait pas lui-même avec les autres, qui était devenu un homme juste. Peut-être. L'Écriture dit de Moïse que quand il est redescendu de la montagne avec les tables de la loi, il ne savait pas que son visage rayonnait. Il était transfiguré. Et il ne savait pas que son visage rayonnait. Mais peu importe le moment où cette conversion s'est produite pour ce publicain, est-ce qu'elle s'est produite au temple ou chez lui, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous ressentons, mais ce qui en ressort, ce qui rayonne de nous, ce qui ressort, ce que perçoivent les autres, ce que vivent les autres, voire ce que subissent ou dont profitent les autres. Et pour ce qui nous concerne, ce qui ressort de notre prière. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous ressentons pendant la messe. Et même de façon générale, pendant la prière, nous n'avons pas à nous tâter en disant « qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je perçois? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est... » Non, nous n'avons pas à nous inquiéter. L'important, c'est l'impact. C'est l'effet, c'est l'impact dans notre vie quotidienne. Une prière de la messe, le dit d'ailleurs, on l'a entendu il y a quelques dimanches, le dit d'ailleurs, elle appelle ça son influence. Elle demande, elle dit, Seigneur, que ta grâce agisse en nous, afin que ce soit ce qui domine, ce soit son influence et pas notre sentiment. L'influence de la grâce, Dieu, premier influenceur, mais un vrai et un bon. Et voyez, à contrario, à quel point le pharisien, dont on dit c'est l'homme de la loi, c'est l'homme qui est respectueux, c'est le formaliste par excellence, non, il est submergé par ses sentiments. Un sentiment magnifique de gratitude à l'égard de Dieu, ou du moins un sentiment de gratitude qui serait magnifique à l'égard de Dieu s'il n'était pas mélangé par un tel sentiment de supériorité à l'égard des autres, par un tel sentiment de mépris envers le prochain. La lettre de Saint Jacques dit que la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. La colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu, mais aucun sentiment de l'homme ne fait la justice de Dieu. Pas même la compassion. Pourtant, nous l'aimons la compassion, mais pas même la compassion. Il y a des cas, il y a des circonstances où elle n'a pas lieu d'être. La loi dit d'ailleurs, tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. Qui est l'équilibre de ce que nous avons entendu dans la première lecture, tu ne le défavoriseras pas non plus. Tu ne le favoriseras pas et tu ne le défavoriseras pas. Tu prendras exemple sur Dieu, tu seras impartial, tu ne te laisseras pas submerger par tes sentiments. Et on pourrait citer un certain nombre de domaines qui nécessitent de prendre un peu de hauteur à l'égard de ce que nous ressentons. L'éducation, la justice, la politique, la prière. Voilà, on y revient quand même, c'est ce qui nous intéresse. Parce que ce que le pape Pie XII, dans un radiomessage de 1956, disait à propos de la politique, le pape Pie XII disait, on ne fait pas de bonne politique avec le seul sentiment. Il faut ajouter, pas plus qu'on ne fait de bonne politique sans aucun sentiment. Eh bien, on ne fait pas de bonne prière, il n'est pas possible de bien prier avec le seul sentiment, pas plus qu'on ne peut faire sans. Vous voyez l'équilibre, la mesure, on va dire la maîtrise à tenir. Le sentiment, c'est ce qui est vraiment humain et ce qui nous rend humains. Le sentiment fait la différence avec la machine, qui n'en a pas, comme avec l'animal, qui en lui en a trop, qui ne les maîtrise pas. Qu'est-ce que nous devons redouter ? De ne pas avoir de sentiments, d'être comme des machines, insensibles ? Ou de nous laisser submerger, de ne pas les maîtriser, de se retrouver à l'état animal ? Ou encore, d'être très sélectif, de les réserver à quelques causes particulières, souvent dictées par l'opinion du moment, comme notre génération dont les bons sentiments ne vont pas jusqu'aux 12 millions d'enfants qui chaque année meurent avant l'âge de 5 ans et qui meurent de quoi ? De malnutrition ou de maladies qu'on sait très bien soigner, comme le paludisme, la pneumonie, la dysenterie, et qu'on laisse tranquillement mourir 12 millions d'enfants chaque année qui n'atteignent pas l'âge de 5 ans dans le monde. Plus près de nous, que faisons-nous pour ceux qui perdent le goût de vivre ? Le ou la Covid n'a pas seulement fait perdre à certains le goût des aliments, il a aggravé les distances entre nous. Ce que nous vivons avec les machines et les écrans, au lieu de nous rapprocher, de permettre de réduire les distances, finissent par éloigner, plus que ça nous rapproche. L'Écriture dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il n'est pas bon que l'homme, que l'être humain se sente seul. Le sentiment d'isolement, c'est le plus grave, c'est le plus alarmant de tous nos sentiments. Et le plus souvent, il vient chez l'être humain d'un refus de Dieu. Je ne suis jamais seul, dit Jésus. Je ne suis jamais seul, le Père est toujours avec moi. Nous ne pouvons pas nous unir à Dieu sans nous rapprocher de nos frères. Et même quand Jésus allait à l'écart pour prier, il priait pour qui ? Pour nous ! Pour ses disciples, pour le monde. Mais maintenant, comme on approche des jours de la Toussaint, et avec la Toussaint, la prière pour nos défunts, demandons-nous ce qu'il en sera de nos sentiments après notre mort. Que deviendront-ils, pour nous qui croyons à la résurrection, dans l'au-delà, dans la vie éternelle ? Je ne parle pas de ce que nous ressentirons en voyant Dieu, la joie pure, le bonheur, mais des sentiments que nous éprouverons si nous ne retrouvons pas une ou plusieurs des personnes que nous aimons. Parmi les personnes que nous aimons, qui nous sont proches, dans notre propre famille, parmi nos amis, il y en a un certain nombre, parfois beaucoup, qui rejettent Dieu. Qui rejettent Dieu que nous adorons. Et c'est bien pour ça que nous prions pour elles, chaque messe, chaque dimanche. Nous prions pour ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur. Mais nous avons cette angoisse que ces personnes incroyantes, mais incroyantes dures, qui auront rejeté Dieu toute leur vie, vécu résolument comme s'il n'existait pas, eh bien refusent au moment de leur rencontre simplement de reconnaître leur tort, de se convertir, simplement de s'incliner, de se prosterner devant lui, avec la même dureté de cœur. C'est ça la dureté de cœur, l'orgueil. Quelle angoisse! Comment pourrons-nous être heureux avec Dieu, auprès de lui, alors que des personnes que nous aurons aimées auront disparu? La seule façon d'éviter ça, c'est bien sûr de prier pour elle, mais c'est de nous convertir nous-mêmes. La seule façon de convertir nos proches, c'est notre propre conversion. C'est de rayonner davantage, toujours plus, de l'amour de Dieu, d'être cohérent dans notre vie. Que votre lumière brille devant les hommes, dit Jésus. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Pas plus que ces jours-ci, une des personnes qui a demandé à être confirmée, à recevoir le sacrement de confirmation, qui avait vécu dans une famille catholique, des parents catholiques qui avaient décroché au moment de l'adolescence. Je les interroge toujours en leur demandant, mais qu'est-ce qui a été le point déclenchant de votre retour? Il m'a dit, le sentiment d'admiration pour les croyants. Prière et conversion sont notre première mission.